Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons sur le sujet qui est absolument le plus important de tout ce que représente la parole de Dieu. C'est la prière. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 41, et on peut dire que notre étude, faut bien donner un titre, notre étude sera pour aujourd'hui apprendre à décupler la force de la prière. Premièrement, l'appel de Dieu pour une association mondiale de prière est une prophétie qui a été donnée dernièrement, et ceci pour la fin des temps de la grâce. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Aussi, notez bien tout cela, comme vous le pourrez, en réécoutant plusieurs fois, parce que cela devient de plus en plus sérieux dans ce monde, sans compter les grèves gigantesques où il n'y a plus de retenue. Donc, chers amis, le ministère de l'intercession est le plus élevé de tous les ministères de l'Église. Christ lui-même, il s'est engagé dans ce ministère. En conséquence, il peut sauver définitivement ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour solliciter en leur faveur. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Du reste, au temps de l'Église primitive, une heure de prière régulière était instituée selon Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Par conséquent, avant que le corps actuel de Christ puisse être perfectionné, il est donc indispensable que ce ministère de la prière soit ravivé. Le Seigneur nous a du reste parlé ainsi. Prie d'abord afin que je rassemble le peuple et que je l'amène et que j'amène tous les hommes et femmes à s'entendre les uns les autres. Ensuite, prie et intercède avec des supplications et des intercessions divines. Alors les anges du Seigneur se tiendront autour de toi afin de te protéger de la violence de Satan. Et puis l'Esprit qui est en toi te dira quand et comment tu dois prier. Car de même qu'une heure de prière a été établie dans le temple du Seigneur, elle le sera aussi en Israël. Car mon peuple est comme un troupeau égaré. Oui, le peuple de mon corps n'est pas encore assemblé. Il n'est pas encore pleinement uni en un seul peuple. Et vous saurez que mon Esprit Saint les fera prier nuit et jour en se reliant, car j'aurai une association mondiale de prieurs. Ils prieront seuls et ils prieront aussi ensemble. Et il y en aura un, puis deux, puis trois, et puis des milliers qui prieront chaque jour. Et puis le Seigneur ton Dieu verra que la moisson est prête et il y aura une grande récolte. Et mon peuple criera, oui, mon peuple priera, mon peuple travaillera. Maintenant, c'est le moment d'encourager ceux qui sont oppressés par ces circonstances à venir sur la terre. Oui, ils me rechercheront, mais ils me rechercheront, hélas, vainement. Et ils prieront le Seigneur de la moisson. Des milliers, des myriades d'âmes seront sauvées avant le temps de la moisson, lorsque ils diront que l'été est passé et que la moisson est terminée et que nous ne sommes pas sauvés. Ensuite, le Seigneur a parlé de l'opposition que les puissances des ténèbres exerceront contre ceux qui prient et qui doivent résister de toute leur force. Il a également dit qu'il n'y a pas de temps pour les égarer, car le temps de la fureur n'est pas loin. Un temps allait bientôt venir où les prières ne serviraient plus, car il sera trop tard. Apocalypse chapitre 6, versets 15 et 17. Éprouve-moi, dit le Seigneur. Entre en ma présence, car les puissances des ténèbres sont contre toi. Mais tu te dis que si tu entres en ma présence et que tu m'éprouves, je te prouverai aussi que je suis ton Dieu. Je te prouverai que je suis dans les cieux et que je tiens le monde entre mes mains. Oui, je tiens le ciel et la terre et toutes choses qui s'y trouvent, même l'homme. Tout ce qui est sur la terre est à moi. Toutes les âmes sont à moi. Je t'enverrai devant avec la victoire et tu n'auras pas peur. Oui, la voix du Seigneur, elle fait trembler les nations et les royaumes, et tous les présidents tombent à ses pieds. Les principes et les chefs de la terre, tous, également ceux qui ont des titres très hauts, qui sont plus que des princes, se prosterneront devant lui. Les nations mêmes trembleront devant lui. Tu prieras pour toutes les nations et tous les royaumes, mais tu ne prieras pas contre ma volonté. Tu prieras pour que mon cœur puisse vous comprendre, ayez encore compassion pour un temps, que mon œuvre puisse venir, pour que mon royaume vienne. Mais tu ne prieras pas contre ma parole que j'ai envoyée pour détruire tous ceux qui anéantissent mon peuple. Car mon jugement doit arriver sur la terre, parce que la terre est remplie de mes jugements et que le peuple apprendra la justice, car je sais que tu peux empêcher mon jugement pour un peu de temps, comme au temps de Noé, comme au temps de Jonas. Et c'est pour cela que je veux que tu pries, pour que j'envoie ma miséricorde et toute ma fureur, que je puisse encore attendre pour punir ce monde. Mais l'heure viendra, oui, où tu ne pourras plus retarder ma colère, car ma fureur viendra même si les hommes disent, à présent que Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour, je montrerai au monde que je suis aussi pas seulement un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de fureur. Au temps où le péché progressera, lorsqu'il augmentera, et crois-moi que je détruirai, que je serai même obligé de détruire beaucoup de peuples, alors je lancerai la parole de jugement et de fureur, et j'enverrai une grande tempête sur les peuples pour les détruire. Et alors, je ne dirai pas que tu dois encore prier. Est-ce que tu crois naïvement que les calamités dont ce monde doit faire face actuellement tels que des gigantesques tremblements de terre, ainsi que des feux sur des distances et sur des surfaces dans des pays que ça n'a jamais eu lieu, des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre. Et ce n'est que le début, car le pire, crois-moi, est encore à venir, avec des fléaux tels que cette génération va trembler de peur. Je n'ai même pas à intervenir, puisque c'est par l'appât du gain, par l'orgueil démesuré et le non-respect de la nature, que tout cela, pas seulement va arriver, mais arrive déjà. Et ceci pour cette génération d'insensés qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté même son Fils Jésus-Christ, même s'il y a encore quelques symboles dans des écoles ou dans des hôpitaux, les suppôts de Satan qui se font passer pour de simples libres penseurs vont exciter le peuple et exiger que tout ce qui représente tant soit peu la chrétienté doive absolument disparaître. Tu ne pourras pas m'atteindre au temps de ma grande fureur. Tu n'en auras pas besoin car tu ne seras pas là. Si tu m'obéis, tu seras enlevé, enlevé dans les lieux de lumière et de gloire. Certains resteront qui prieront et leurs prières ne seront plus entendues. Je veux que tu pries maintenant. J'ai envoyé ma parole à cette heure. Je suis le Dieu, le bon berger qui vient chercher ceux qui prient, chercher mon troupeau qui s'est dispersé. Par ce moyen, tu atteindras et tu participeras à ramener les esprits de mon peuple dans ma maison. Et ils reviendront à mon service, à ma parole, à mon œuvre et à moi-même. Le Seigneur a poursuivi en disant que c'était notre heure, une heure qui ne reviendra jamais, que bien que Satan combatte plus que jamais ceux qui prient, l'insistance prévaudra assurément, et que les hommes et les femmes de prière peuvent modifier, s'ils le veulent, l'issue finale des événements mondiaux. Et tu sauras que c'est ton heure pour prier et non pour retarder. Tu commenceras cette heure même et tu ne la négligeras pas. À partir de ce jour, Satan érigera de nouveaux obstacles contre toi. Mais lorsque tu entres dans le domaine de la prière, tu pénètres dans un endroit où tu pries contre les œuvres de Satan. Et Satan, sache qu'il est actif plus que jamais maintenant. Il est très organisé, il a de grands pouvoirs et il peut faire pression contre tous ceux qui suivent ma volonté. Mais je te dis que tu as une chose à faire, celle d'ordonner à son pouvoir de cesser. Tu as l'autorité, n'oublie jamais cela, l'autorité d'un croyant pour rompre ses chaînes n'importe quand et n'importe où, quel que soit le nombre de ses ouvriers, quelles que soient les hordes qui l'accompagnent. Comme Élie, comme tout homme juste, tu dois prier. Et les prières ferventes du juste valent beaucoup. Et tu seras comme Élie, tu seras comme Élisée. Tu prieras et une double portion, oui, une double portion de pouvoir viendra sur toi et cette prière ne cessera jamais. Elle continuera, elle se répandra comme la vague se déroule sur l'eau. Tu sauras que je suis le Seigneur ton Dieu Il se tient toujours sur les rives de la mer Rouge et du Jourdain. Il marche toujours sur la Galilée, afin que tu saches qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je te donne l'avertissement à communiquer aux autres, afin qu'ils s'humilient, dit le Seigneur, en jeûnant et en priant. Oui, qu'ils s'humilient, dit le Seigneur, les uns devant les autres, et que l'amour de Christ qui est en eux se répande de l'un sur l'autre. Ils ne respecteront pas ceux qui viennent vers eux richement vêtus ou dans une attitude hautaine. Ils reconnaîtront et certifieront mon Esprit Saint qui est sur mes humbles. Oui, tu dis en ton cœur que tu n'as que quelques jours à attendre. Non, 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 je te dis, commence ce soir déjà à chercher ceux qui voudraient entrer dans le grand mouvement de la prière, afin qu'ils soient investis de l'Esprit du Seigneur et du pouvoir de sa sainte parole. Et le sang de l'Alliance éternelle sera sur toi et se répandra sur eux. C'est ainsi que Dieu a désigné un grand et puissant mouvement de prière dans l'intention précise de l'intercession, de la joie et de l'action de grâce, afin que l'intercession soit tempérée par des actions de grâce et que ainsi elle ne détruise pas l'intercesseur. Car tu n'étais pas une joie pour l'intercesseur, étant continuellement silencieux. Mais le Seigneur te fera connaître qu'il te donnera des joies afin qu'elles tempèrent le pouvoir de l'intercession, des pleurs et des lamentations, et les supplications suivront leur cours, dit Dieu dans ce ministère, et l'intercession suivra la supplication, et il y aura des actions de grâce, des réjouissances, des supplications, des requêtes, des repentirs, et toutes les conditions d'un prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps, seront reproduites. Et c'est pourquoi, pars aujourd'hui déjà et arme-toi de la foi et revêt l'armure de Dieu afin de résister aux méchancetés du diable, car il sait où attaquer et il sait où œuvrer, et il œuvre rapidement parce qu'il sait que ce temps et court. Et c'est pourquoi observe Dieu dans ton cœur, et quand tu parleras par la voix de la prière. Sois un prieur constant, sois continuellement un prieur, sois un prieur à chaque instant et rends gloire. Tu sauras que tu seras en contact permanent avec ton Seigneur et tu connaîtras tous ses déplacements, et chaque jour tu sauras où aller. Et deuxièmement, vous devez faire de la prière votre travail à vie. Si vous prenez la résolution de faire de la prière votre travail à vie, cela constituera une décision primordiale. Tous les chrétiens ont le désir d'avoir une vie riche. Le monde ne procure pas la satisfaction que l'âme humaine réclame. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon atteste que les gains matériels de ce monde, de même que les accomplissements terriens, ne sont que vanité et vanité, et ne satisfont pas l'esprit. L'argent, la gloire, les honneurs terrestres, les succès politiques, rien de cela ne comble l'esprit de l'homme. La mort survient et les hommes doivent tout laisser derrière eux. Oui, tous les hommes sont voués à la mort. Et c'est pourquoi la véritable satisfaction doit résider dans les récompenses assurées qui sont de l'autre côté. Dieu a vraiment un plan précis pour chaque vie. Avant votre naissance déjà, Dieu a fait la trame de notre vie. Nous venons chacun dans un but spécifique. Nous réussissons ou nous échouons. Notre succès ou notre échec dépend de la manière dont nous comprenons le but dans lequel nous avons été créés. Comment le savoir? Il n'y a qu'une seule façon, c'est de prier. En recherchant quotidiennement la face de Dieu, nous pouvons découvrir sa volonté parfaite pour nos vies. Sachez qu'il y a une période de grande activité démoniaque devant nous. Et voilà pourquoi, exultez, cieux, et vous qui séjournez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Le passage que je viens d'indiquer, que Satan a été déjà jeté du ciel vers la terre, et ses activités entraînent donc la montée de l'Antéchrist auquel il donnera tout son pouvoir. Apocalypse 13, verset 4. Au même moment, une horde de démons supplémentaires et d'anges déchus sortira de l'abîme pour assister les puissances des ténèbres déjà en activité sur la terre. Apocalypse 9, verset 1 à 3, ainsi que versets 14 et 15. Personne ne connaît aussi bien que Satan la brièveté de ce temps, et pourtant il ne se résout pas à la défaite. Conscient de l'imminence de son sort, il déploie des efforts désespérés pour contrer les plans de Dieu et mobilise donc ses forces. Le diable prévalant sur la terre, les circonstances sont extrêmement favorables à des manifestations sans précédent de pouvoir démoniaque et d'égarement satanique. Cela est prouvé par l'essor impressionnant de la sorcellerie, de la magie noire, du culte démoniaque, de la perversion et de la dégradation morale. Il est certain que nous sommes à l'aube de ces événements. L'iniquitude, l'inquiétude, l'iniquité y grandissent dans le monde. La violence, l'augmentation de la criminalité et de la délinquance juvénile, l'usage immodéré des drogues et des barbituriques, la scission morale et la structure de la société, tout indique l'intensification du regroupement des forces démoniaques contre l'humanité. L'apôtre Paul parle de ce combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs spirituels dans les régions célestes. N'oubliez jamais cela, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les souverains de ce monde de ténèbres, oui, contre l'esprit pervers qui sont dans les régions célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ces pouvoirs démoniaques concentreront leurs attaques sur les croyants qui ne prient pas. Les démons savent que si les chrétiens omettent la prière, ils sont vulnérables. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, s'il doit survivre, seul contre eux, doit habilement user de l'arme de la prière contre ses forces invisibles. Il doit prendre l'offensive et doit se muer dans les régions célestes contre les forces sinistres du diable, car seule la prière de protection améliore le monde. Chers amis, ceux que vous aimez, seront-ils, je vous le demande, seront-ils délivrés? Posez-vous la question. Tout véritable chrétien espère que ses proches seront sauvés. C'est une chose très sérieuse de penser que ceux que nous aimons sont sous contrôle des puissances des ténèbres. N'oubliez jamais cela. Il est triste de les voir passer, de voir passer le temps de la décision et d'assister au choix final et de s'éloigner de Christ. Nous avons perdu quelque chose définitivement lorsque ceux qui font partie de notre vie meurent sans Christ et seront éternellement, que vous le croyez ou pas, séparés de nous et de Dieu. Pourtant, beaucoup de ceux que nous aimons seront certainement perdus si nous ne prions pas. Nous devons les délivrer des puissances des ténèbres auxquelles ils sont liés. Nous devons les amener pour Dieu, à l'image de Noé, vivant aussi dans une génération apostate. Nous devons pouvoir sauver nos proches en plus de nous-mêmes. Les parents chrétiens doivent réaliser que les attaques les plus cruelles de Satan visent souvent leurs enfants. Seule la prière persévérante va pouvoir vaincre ces projets démoniaques. Jésus-Christ nous a dit de prier et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Saint Matthieu 6, verset 13. Malheureusement, beaucoup ne prient pas dans ce sens-là. Ils ne se préoccupent que de leurs troubles actuels ou de leurs problèmes immédiats. Nous vivons cependant dans un monde dangereux où le drame n'est jamais loin. Combien de familles, y compris celles qui sont en bonne santé, sont frappées par le drame? Beaucoup de chefs de famille voient leurs enfants devenir délinquants, drogués ou criminels. La société cherche à masquer ces misères, mais le masque cache de nombreux drames et tant de cœurs brisés. Beaucoup de chrétiens ont foi en leur salut personnel. Pourtant, ils ne sont pas en position de résister aux attaques rusées de leurs antagonistes pervers, qui est le diable. Les pièges sont tendus devant eux et ils ne le savent pas. Ils vivent dans une sorte d'inconscience, sans réaliser que l'ennemi de leur âme se prépare à attaquer. Et c'est alors qu'ils panique, souvent comme il se noie. Désespéré, il cherche quelqu'un qui a la foi, dont ils espèrent qu'ils pourront prier pour les sortir de leurs ennuis et compenser ainsi leurs années passées sans prière et sans avoir fait attention. Le danger est devant tout le monde, prédicateurs ou membres de base, tous ceux qui n'ont pas appris le secret de la prière protectrice. À cet instant précis, eh bien, sachez que le diable élabore les plans secrets de leur ruine. Certains membres de leur famille ont peut-être déjà été ciblés. Il peut s'agir d'une maladie paralysante, ou bien l'ennemi peut s'être acharné à anéantir la personne spirituellement ou physiquement. Cependant, les saintes Écritures ont promis que celui qui se tient dans le lieu secret du Très-Haut n'a pas besoin de craindre le diable. Mais pour se tenir en ce lieu, il faut d'abord apprendre l'art de la prière. Dieu enverra ses anges pour protéger celui ou celle qui prie, car il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les dégage. Psaume 34, verset 8. Pourquoi attendre l'assaut désastreux? Pourquoi ne pas anticiper le diable avant qu'il arrive? En faisant de la prière une tâche de notre vie, il est possible de prévenir le danger avant qu'il se présente. Chers amis, l'orientation divine dans cette vie est d'une grande importance. La famille chrétienne, dans son ensemble, n'est pas certaine de connaître la volonté de Dieu lors de multiples décisions importantes à prendre. Il arrive souvent, après coup, que l'on doive confesser qu'avoir fait une grave erreur, une erreur résultant de lacunes sérieuses, la prière protectrice peut éviter tous ces pièges. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que Dieu peut faire concourir au bien de ceux qui l'aiment, ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Mais notez bien ce qui est dit deux versets auparavant. Romains 8, verset 26, l'accent est mis sur celui qui prie en esprit. Cela implique que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui ont appris à prier, la prière en esprit. Si nous laissons Dieu nous guider, il peut corriger notre jugement erroné. Même si nous nous trompons, nous pouvons rattraper nos erreurs avant qu'il soit trop tard. Nous pouvons prévenir et protéger des membres de notre famille d'erreurs pouvant avoir une incidence fatale sur leur vie. L'orientation divine est disponible pour tous ceux qui font de la prière une tâche de leur vie. Chers amis, il est un fait que nous vivons en période d'insécurité. Nos gouvernements actuels multiplient les sécurités, la sécurité sociale, la prévention des accidents, les soins médicaux, l'aide médicale, le sauvetage, la sécurité contre les violences naturelles, etc. La liste est sans fin. Le drame peut frapper n'importe quand, une maladie grave, la dégradation de la santé, la perte de l'emploi, les graves fluctuations économiques, toute génération de désastres financiers. Mais Dieu est un Dieu des miracles qui pourvoit, entre autres, à tous nos besoins, comme le Seigneur a fourni l'huile et la nourriture à la veuve qui a nourri Élie, souvenez-vous, comme il a fourni le pain et le poisson pour la foule affamée, il peut reproduire des miracles similaires de nos jours. Les miracles d'approvisionnement sont à ceux qui apprennent l'art de la prière quotidienne. Donne-nous notre pain de ce jour. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Les conditions naturelles n'ont aucun effet sur la capacité de Dieu à exaucer la prière. Dans le désert, Dieu a envoyé la manne et les cailles en quantité suffisante pour nourrir 2 millions de personnes pendant plus de 40 jours. Et aujourd'hui, ni récession, ni dépression, ni pénigère, ni fluctuation boursière, ni rien d'autre ne peut empêcher Dieu d'approvisionner ceux qui lui sont fidèles et lui font confiance. Il est dit dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, glorieusement en Jésus-Christ. » Nous avons davantage de vivre dans un pays où l'Évangile est prêché par des quantités de personnes. D'autres nations n'ont pas cette chance-là. Ainsi que le disait l'apôtre Paul, nous sommes redevables, vraiment redevables, de leur donner le message de vie. Nous ne pouvons pas tous être missionnaires, d'accord, mais nous pouvons tous prier et donner la prédication de l'Évangile dans toutes les nations et étroitement liée à ce grand événement que tous les chrétiens attendent, la venue du Seigneur. Au vu de la détérioration de la condition mondiale, de l'imminence d'un conflit atomique susceptible d'anéantir l'humanité, nous avons envie de crier « Viens vite, Seigneur Jésus-Christ, viens !» Cependant, Jésus-Christ a précisé que la fin de ce temps ne peut arriver que si l'Évangile est prêché à toutes les nations. Saint Matthieu 24, verset 14. Mais combien de temps les portes des nations resteront-elles ouvertes? Comment les puissances des ténèbres qui oppressent les païens seront-elles anéanties? Jésus-Christ a répondu à cette question lorsqu'il a dit « Priez donc le Seigneur de la moisson, de dépêcher des ouvriers à sa moisson. » Saint Matthieu 9, verset 38. Et comment le peuple de Dieu sera-t-il donc uni, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, si ce n'est l'Église réunie dans une puissante prière protectrice? L'Église ne le fera que selon que vous et moi le faites aussi. Et nous ne le ferons que si nous prenons la résolution de commencer maintenant. Chers amis, ces raisons ne vous poussent-elles pas à tomber à genoux maintenant et à intercéder Dieu pour prier jusqu'à ce que vienne la victoire? La prière protectrice peut non seulement changer le monde pour nous, mais aussi pour les nations. Pouvons-nous prendre une autre décision que celle de faire de la prière une tâche de notre vie? La prière protectrice nous vient de la Bible. Jacob, revenant de Padan Aram, a été confronté à la plus grave crise de sa vie. Ses accords malsains avec Ésaü avaient attiré sur lui l'hostilité amère de son frère. Des messagers avaient informé Jacob qu'Ésaü venait vers lui avec 400 guerriers. Il était clair qu'il voulait se venger. Le patriarche savait qu'il n'avait pas la moindre chance de se défendre contre une telle force. Anticipant le choc, Jacob a divisé sa compagnie en deux. Si donc une partie était détruite, eh bien l'autre pouvait se sauver. Il a envoyé devant des troupeaux de bétail dans l'espoir d'attendrir Ésaü par ses présents. Désespéré, Jacob a enfin ouvert son âme à Dieu pour être délivré. Se relevant, après avoir prié sincèrement, le patriarche n'était pas tout à fait satisfait. Il doutait toujours de l'issue. Dans les profondeurs de la nuit, il a traversé le gué du Yabok. Et là, il a fait l'expérience équipe de la lutte avec l'ange, une expérience forte. Voyons un peu les détails de ce combat spirituel qui nous est donné et qui nous a donné les leçons très importantes. Premièrement, Jacob resta seul. Genèse 32, verset 24. Les grands appels spirituels sont résolus lorsque les hommes sont seuls avec Dieu. En de tels moments, certains s'abandonnent au destin et autorisent leur destruction. Ils autorisent ainsi leur destruction. Et d'autres relèvent le défi carrément et s'accrochent aux promesses de Dieu. Alléluia. Or, l'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Deuxièmement, un homme combattit avec lui. Rappelez-vous, nous avons là un des mystères, un grand mystère de la prière. Jacob a lutté avec un ange. Il ne s'agissait pas d'un combat physique, bien entendu. Qui donc pourrait, vous ou moi, combattre un ange de cette manière? C'était un combat spirituel. En outre, Jacob luttait entre lui et son ancienne nature. Toute la nuit, il a combattu. Ceux qui ont expérimenté la prière d'intercession, ils connaissent une partie de ce qui s'est passé. Nous savons aussi que pour l'emporter sur des hommes, il faut d'abord l'emporter sur Dieu. Troisièmement, l'emporter sur Dieu exige, croyez-moi, d'en payer le prix. Je répète, ça exige de payer le prix. Donc l'ange a touché le creux de la hanche de Jacob qui s'est démis. Et Jacob était alors moins capable de fuir Ésaü qu'auparavant. Mais nous allons voir maintenant que Jacob n'a pas eu à fuir, pas du tout. Et c'est là que se trouve notre miracle. Car quatrièmement, finalement, le patriarche a dit à l'ange, « Eh bien moi je ne te laisserai pas partir » avant que tu ne m'aies béni. » Et Jacob l'avait emporté sur Dieu. Et l'ange a dit, « On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais d'Israël, Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Genèse 32, verset 28. Jacob donc a pu dire, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Tout le monde connaît la suite. Jacob a rencontré Ésaü et ses 400 guerriers. Mais au lieu de fuir, eh bien, il est tombé dans les bras de son frère Ésaü, et tous les deux ont fondu en larmes, et ceci dans un merveilleux esprit de réconciliation. Avez-vous entendu cela? Ils sont tombés l'un dans l'autre, dans les bras de l'un l'autre, dans un merveilleux esprit de réconciliation. Là, nous avons aussi Moïse, ce fameux homme de Dieu qui a sauvé toute une nation. L'homme de Dieu Moïse a atteint la plénitude de sa nature dans sa prière d'intercession qui a permis à 2 millions de personnes d'avoir la vie sauve. Alors que Moïse avait rencontré Dieu sur la montagne, les enfants d'Israël commettaient le péché d'adorer le veau d'or. Dieu a dit à Moïse de s'écarter afin qu'il puisse détruire ce peuple ingrat qui s'était détourné de lui aussi vite pour les idoles. Exode 32, versets 9 à 10. Moïse était conscient de l'étendue du péché d'Israël. Il avait assisté aux orgies de leur culte licencieux. Cependant, il ne pouvait pas se résoudre à voir sa nation périr. Il est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne à intercéder, implorant Dieu de pardonner Israël. Pourtant, si tu enlevais leur péché, sinon, alors, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai complètement de mon livre. Et maintenant, va Moïse, mène le peuple où je t'ai dit, voici que mon ange marchera devant toi, mais au jour de mon châtiment, je les châtierai pour leurs péchés. Exode 32, 32 à 34. Dieu a donc entendu la prière de Moïse et a promis d'épargner les enfants d'Israël. Vous avez bien entendu. Il a en outre promis que sa présence les accompagnerait. Il a dit, ma face ira et je te procurerai le repos. Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas mourir et monter ici. Exode 33, versets 14 et 15. Et là, nous voyons ainsi le pouvoir de la prière d'intercession, la prière qui naît de l'abnégation jaillissante de l'amour pour les âmes humaines. De nos jours, nous avons un besoin pressant d'hommes et de femmes qui, comme Moïse, intercéderont pour leur peuple. Moïse a modifié le sort d'Israël et le cours de l'histoire. De même, les intercesseurs actuels incitent Dieu à modifier le destin de la nation. Nous avons également Daniel le prophète, l'homme qui a modifié le sort des nations. L'histoire de Daniel nous donne la leçon la plus éclatante de l'art de prier. Cet homme, dont la vie s'est étendue sur presque un siècle, vivait en un temps où les jugements divins se déversaient. Les nations étaient renversées, les royaumes s'élevaient et tombaient, mais au cours de cette longue période, le prophète Daniel n'a pas seulement eu une vie irréprochable, il a aussi modifié le destin des nations par la prière. Voici un homme dont les prières ont provoqué la conversion de monarque le plus puissant du monde. Rappelez-vous de son fameux nom, Nabucodonosor, appelé aussi Nebuchadnezzar. Voici donc un homme qui vivait dans le lieu secret du Très-Haut. Alors qu'il était jeté au lion, donc Daniel, Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des bêtes, épargnant ainsi le prophète. Il est impossible de parler de toutes les délivrances merveilleuses narrées dans le livre de Daniel. Nous noterons seulement au passage la réponse dramatique à la prière rencontrée au chapitre 10. Daniel connaissait l'avenir de son peuple et Dieu lui avait révélé que le Messie allait bientôt venir. Néanmoins, il serait supprimé et la désolation viendrait sur le peuple. Daniel 9, versets 24 à 27. Cette révélation avait fait un grand choc à Daniel. Quel serait alors le sort final de la nation d'Israël? C'est ici que nous apprenons une chose très importante dans l'art de la prière. Dieu a envoyé un ange à Daniel, et ceci le jour même où il s'est mis dans l'attente de Dieu. Mais l'ange n'a pas pu atteindre Daniel tout de suite. Pendant 3 semaines, il a dû lutter. L'obstacle est clairement révélé. C'est le chef des rois de Perse, un prince des démons, s'opposait à la mission de l'ange. Il était l'un des principaux lieutenants de Satan. Ceci nous montre que le véritable pouvoir contrôlant cette nation n'était pas un dirigeant humain, mais pas du tout, mais une principauté invisible des ténèbres invisibles, influençant et contrôlant les actions d'un peuple qui n'était pas totalement assujetti à Dieu, tel qu'aujourd'hui ce qui se passe en Europe, en France voisine. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Le prophète Daniel avait l'habitude de voir ses prières exaucées, mais cette fois-ci, rien ne semblait se produire. Néanmoins, Daniel n'a pas renoncé. Le retard le poussait à poursuivre ses efforts. Il s'est adonné à la prière et au jeûne pendant 3 semaines. Il a persisté jusqu'à ce que vienne la réponse. Et, on peut dire « Eureka », le 21e jour, quelque chose s'est produit. Un ange de Dieu est subitement apparu dans sa chambre. Suivant le messager céleste, la prière de Daniel avait été entendue dès le premier jour. Et l'ange lui avait dépêché donc quelqu'un. Mais le chef des rois de Perse, il était là. Il s'était opposé à lui pendant tout ce temps. Et Daniel a dit, il me dit ceci. « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'affliger devant ton Dieu, tes paroles ont été déjà entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse, il m'a résisté pendant 21 jours, et voici que Michel, l'archange, un des premiers chefs, il est venu à mon secours, et je l'ai laissé auprès du chef des rois de Perse. » Daniel 9, versets 12 et 13. Une des révélations les plus remarquables de l'Ancien Testament nous est donnée ici. Dans notre combat de prière, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs et les principautés. Dieu n'est jamais sans ressources, et Daniel, ayant persisté à prier, son renfort a permis d'assurer la défaite de Satan. Que se serait-il passé si Daniel avait renoncé? Le prophète n'aurait évidemment pas été là pour recevoir la réponse. Dieu assure qu'il élèvera de nombreux Daniel de nos jours qui resteront à genoux jusqu'à ce que la réponse leur parvienne. La Bible dit dans Ézéchiel 22, versets 30 et 31, « J'ai cherché parmi eux un homme qui construisit un mur et se tint sur la brèche devant moi en faveur du pays, et ceci pour m'empêcher de le détruire. Mais je n'en ai pas trouvé, et j'ai répandu sur eux mon courroux, donc ma colère, avec le feu de mon emportement, je les ai exterminés. » J'ai fait retomber leur conduite sur leur tête. Oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel 22, versets 30 et 31. Oui, les saintes Écritures sont un aperçu très remarquable de la relation de la divine providence avec l'administration de sa justice. Elle révèle les circonstances dans lesquelles le jugement de Dieu visite une nation ou bien peut l'épargner. Dans le cas présent, la coupe de la fureur de Dieu avait atteint sa pleine mesure et se préparait à se déverser sur le peuple de Juda. Il restait encore une chance à la nation si Dieu trouvait un homme ou une femme qui fasse une prière d'intercession, le pays pouvait encore être épargné. Le Seigneur cherchait quelqu'un qui se tienne sur la brèche et empêche l'ouragan d'anéantir la nation. Ne pouvait-il pas trouver, parmi les centaines de milliers d'habitants, une seule personne qui ait assez d'abnégation pour délaisser ses propres intérêts et intercéder pour le peuple? Hélas, le Seigneur n'a trouvé personne, absolument personne. Au lieu d'être alerté par les temps, eh bien chacun était tout simplement engagé dans une course frénétique à l'augmentation de son bien-être matériel, ignorant totalement, dans l'aveuglement, que la nation était au bord du désastre. Cela rappelle les militants, les militaires, les anarchistes, les révolutionnaires d'aujourd'hui, engagés dans une course folle pour la possession matérielle périssable, une partie de la société convoite ce que l'autre possède, prête à user de la force si elle n'est pas rapidement satisfaite. Les hommes du clergé d'alors ne manquaient pas de religion. Il y avait de nombreux prophètes, parmi lesquels malheureusement beaucoup de faux prophètes. Ils avaient pour règle de prophétiser les douceurs que le peuple voulait bien entendre. Jérémie, l'homme de Dieu, les avait mis en garde contre un jugement catastrophique à venir. Les faux prophètes, Hanania, a ouvertement défié l'avertissement de Jérémie en prédisant que dans 2 ans, il briserait le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babel, Jérémie 28. Sa fausse prophétie ne s'est jamais réalisée, ne s'est pas accomplie. Bien au contraire, cette même année, il a péri sous le jugement de Dieu. Peu après, Nabucodonosor est venu de Babylone avec son armée, investissant la cité, brûlant le grand temple et amenant le peuple en captivité. Nous assistons, chers amis, aujourd'hui à une situation similaire à celle qui existait au temps de Judas avant sa dissolution. Bien qu'à l'instant même, la menace d'un conflit nucléaire plane au-dessus du monde, eh bien, avec des pseudo-amis tels que la Corée du Nord et l'Iran, eh bien, tout cela pourrait se réaliser. Ceux qui se disent libéraux et pacifiques clament que nous ferions mieux de fermer les yeux et de penser à la paix. La Bible et la prière n'ont plus cours dans les établissements scolaires. Cette permissivité a donné lieu à un déluge de pornographie dans les librairies et toutes sortes d'immoralités sont autorisées dans les théâtres et les cinémas et sur Internet, etc. Il en était ainsi au temps de Sodome, et son nom même est devenu une exécration synonyme des pires perversités de la race humaine, car les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et même les femmes avec des animaux. L'écho du péché de cette ville se répercutait jusqu'aux cieux, et Dieu devait nécessairement en tenir compte. Il devait donc décider de ce qu'il fallait faire. Et le juste Lot, il vivait en cette cité-là. Voyez-vous, si son témoignage aurait pu influencer que 10 personnes, eh bien Dieu aurait épargné Sodome. En fait, si Lot avait admonesté sa famille comme l'avait fait Abraham, son oncle, eh bien sa famille aurait été sauvée et aurait constitué le quota requis des 10 justes, selon la Genèse, chapitre 18, verset 19. En d'autres termes, si Lot avait eu foi en la prière autant qu'Abraham, non seulement il aurait sauvé sa propre famille, mais il se serait aussi tenu sur la brèche et aurait sauvé Sodome de la destruction. Malheureusement, l'homme a perdu sa propre famille ainsi que Sodome et ses villes jumelles, car Sodome n'a pas été détruite tout seul. Toutes les villes aux alentours ont été détruites également. Savez-vous que le réveil spirituel de Wesley a sauvé l'Angleterre? Au XVIe et XVIIe siècle, une grande réforme a submergé l'Europe, entraînant le salut et la bénédiction des nations d'Europe. Les Huguenots ont grandement participé à ce réveil en France, mais les ennemis de Dieu de ce pays ont éliminé la plupart des chrétiens lors du massacre de la Sainte-Barthélemy. La France ne s'est jamais remise du choc. Elle a fini par tomber dans les excès sauvages et sanglants de la Révolution française. La même chose aurait pu se produire en Écosse, mais un habitant de ce pays qui s'appelait John Knox, il priait. Il a dit « Donne-moi l'Écosse ou je mourrai ». Et Mary, craignant ses prières plus que tout, a reculé. En Angleterre, la religion était en fort déclin. Le clergé était corrompu, l'alcoolisme sévissait et l'Angleterre glissait doucement vers le modèle de la France. Cependant, John et Charles Wesley, ainsi que George Whitefield, lors de leur fameuse réunion de prière méthodiste, ont renversé la vapeur et sauvé l'Angleterre. Ces hommes continuaient à prier et à prêcher, revêtus d'une puissance bénédictine. Lorsque un réveil spirituel a jailli et a submergé toute la nation. Le thème des réveils de Wesley était une vie sainte, dédiée à Dieu et une évangélisation individuelle. Wesley a rapidement bénéficié d'une suite de prédicateurs qui ont allumé le feu du réveil spirituel absolument partout. Même l'histoire séculaire concède que ces réveils ont sauvé l'Angleterre du désastre qui s'est abattu sur la France. Par leurs prières, eh bien, ces hommes se tenaient carrément sur la brèche. Alors que la guerre civile menaçait d'éclater en Amérique, Charles Finney, le prince des évangélistes, a parlé d'un fardeau terrifiant qui est venu sur lui pour le peuple d'Amérique. Le ministre et tous les ministères étaient là, rassemblés, ne voyaient, hélas, qu'un mince espoir d'éviter le conflit et ils avaient conscience tous qu'un choc terrible, générateur de sang et de pleurs, approchait. Alors que les foules se réjouissaient et que les orateurs excitaient les émotions du peuple avec d'orgueilleux discours, Finney et ceux qui portaient le fardeau d'âme luttaient avec Dieu. Et c'est alors, chers amis, que l'esprit de la prière a enveloppé des milliers de personnes. Dans sa biographie, du reste, Finney nous raconte l'hiver 1857 et 58 restera gravé dans les mémoires comme un temps de grand réveil spirituel dans tout le nord des États-Unis. Il a submergé le pays avec une telle force que le nombre de convertis a été estimé à l'époque à plus de 50 000 personnes. Ce réveil avait des caractéristiques intéressantes. Il avait une telle amplitude qu'il a touché presque tous les ministères. Pendant plusieurs années, une réunion de prière était quotidiennement observé à Boston. L'automne, avant la grande explosion, la prière quotidienne avait été établie à Fulton Street, à New York. En fait, des réunions de prière étaient instituées dans tous les États du nord de l'Amérique. Je me rappelle d'une réunion de prière à Boston, eh bien cet hiver-là, où un homme s'est levé disant « Je viens d'Omaha, dans le Nebraska ». Et tout au long de mon voyage, j'ai trouvé des réunions de prière. Il faut dire que plus de 3000 kilomètres séparent Omaha de Boston. Ces personnes se tenaient sur la brèche, croyez-moi, et leur réveil spirituel est arrivé à temps, épargnant la vie de certaines et de centaines de milliers de personnes avant la guerre civile. Chers amis, sachez qu'au début du siècle, l'Église manquait d'un élément important, le pouvoir de la Pentecôte. En vérité, beaucoup de ses ministères prônaient l'inspiration des Écritures saintes. Ils croyaient aux miracles et aux dons de l'Esprit, mais presque tous étaient convaincus que les miracles faisaient partie du passé et que de telles choses étaient réservées uniquement aux apôtres. Le modernisme et la critique avaient donc le champ libre. Dieu était considéré comme le Dieu d'hier, et plus le Dieu d'aujourd'hui et de demain. Il n'y avait évidemment aucun support scripturaire étayant que les jours des miracles étaient révolus. Cependant, le clergé établi ne désirait pas affronter la vérité selon laquelle l'absence de telles manifestations était due au fait que l'Église avait perdu son premier amour et non parce que Dieu avait modifié ses promesses. Heureusement, tous n'adoptent pas cette attitude. Quelques réunions de prière ont émergé ça et là, en Amérique et ailleurs, regroupant des personnes engagées dans les heures de prière et la quête d'âmes, implorant le retour du pouvoir apostolique. Ainsi, chers amis, tout ça que des hommes et des femmes se sont tenus sur la brèche contre la complaisance de l'Église nominale. Prions pour un renouveau du ministère apostolique. Even Roberts, un homme modeste, s'est tenu sur la brèche dans une prière d'intercession et un réveil spirituel d'amplitude historique a secoué ce pays. Un an plus tard, le grand déversement du pouvoir de la Pentecôte s'est produit au Kansas, au Texas, à Los Angeles. Partout, de petits groupes de combattants de la prière priaient, puis les fenêtres des cieux se sont ouvertes. Un grand renouveau apostolique a donc visité la terre comme jamais auparavant depuis les jours de l'Église primitive. Avant de terminer, chers amis, par la prière, sachez, chers amis, que nous affrontons aujourd'hui une autre crise, beaucoup plus grave que jamais, la crise d'une époque moribonde, on peut le dire, car à nouveau Dieu appelle son peuple à se tenir sur la brèche. Armageddon se rapproche, jour de ténèbres et de catastrophes. Et c'est l'heure, croyez-moi, à présent, plus que jamais, c'est la dernière opportunité d'œuvrer pour la moisson, car Dieu appelle son peuple à se tenir sur la brèche. Serez-vous, chers amis, de cela? Je vous le demande. Priez, et priez toujours. Nous allons terminer ensemble par la prière. Ô Jésus-Christ, toi seul es le chemin, la vérité, la vie de nos âmes. Demeure en nous et nous en toi, comme toi-même tu demeures dans le Père. Car hors de toi, nous ne pouvons rien, mais en toi, nous pouvons toutes choses. Que nous demeurions attachés à toi, divin cep, pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle tu nous appelles. Que ta grâce et ta paix repose sur nous, qu'elle repose aussi sur tous les nôtres, auprès et au loin, et que tous ensemble nous puissions t'invoquer et te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Et chers amis, je vous remercie de tout cœur, vraiment pour l'intérêt que vous portez à ces études, et aussi je vous demande de réécouter, ça vous coûte rien, vous pouvez réécouter ces CD autant de fois que vous voulez, et ainsi construire votre foi toujours plus forte en celui qui est mort pour vous à la croix, car il vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez donc bénis. Au revoir, mes très chers amis.